Chapitre 77. L'opération. Dans l'oriel d'un appartement situé au troisième étage au 4A Nibrogatan, patiente la responsable des opérations, Jenny Göransson. Les heures passent, mais personne n'a rien à signaler. Tout est calme. Elle jette un œil sur la place en contrebas et sur le toit au-dessus de l'appartement de Pénélope, d'où quelques pigeons s'envolent et disparaissent. Sonny Jansson y est en faction. Il a sans doute bougé et fait fuir les oiseaux. Jenny le contacte et il lui confirme s'être avancé pour regarder à l'intérieur d'un appartement.
« Je pensais avoir vu une bagarre, mais il joue à la oui et s'agite dans tous les sens. »«
Reprends ta position, » dit sèchement Jenny. Elle prend ses jumelles et scrute à nouveau le coin obscur entre le kiosque et l'orme qu'elle considère comme une zone fragile. Vêtue d'un jogging, l'agent Blomberg court le long de Sibyl Gatan. Il prend contact d'une voix tendue.
« Je vois quelque chose au cimetière. »«
Qu'est-ce que tu vois ?»«
Quelqu'un bouge sous les arbres, à environ 10 mètres de la clôture qui donne sur Storgatan. »«
Vérifie, mais fais attention. » Il passe l'escalier près du pignon du musée militaire et pénètre dans le cimetière à petite foulée. La nuit estivale est chaude et claire. Il avance silencieusement sur la pelouse qui longe l'allée. Il pourrait s'arrêter quelque part et faire mine de s'étirer, mais il poursuit son chemin. Les feuilles bruissent légèrement. Le ciel est masqué par les branchages et il règne une épaisse obscurité entre les stèles funéraires. Soudain, il aperçoit un visage presque à niveau du sol. C'est une femme d'une vingtaine d'années. Ses cheveux sont coupés à ras et teints en rouge. Son sac militaire gît à côté de sa tête. Elle affiche un sourire béat, tandis qu'une autre femme remonte son pull et commence à lui embrasser les seins. Blomberg recule doucement, avant d'appeler Jenny Göransson.
Fausse alerte, un couple d'amoureux.
3 heures se sont écoulées. La nuit commence à fraîchir et de la rosée s'est déposée sur le sol. Blomberg est parcouru de légers frissons. Il continue son tour et se retrouve face à une femme entre deux âges, aux traits fatigués. Elle semble très ivre et chancelle sur place en tenant deux caniches en laisse. Les chiens reniflent le trottoir avec ardeur, impatients d'avancer, mais elle les tire furieusement en arrière. À l'angle du cimetière, il croise une femme en uniforme d'hôtesse de l'air. Les roues de sa petite valise bleu marine bourdonnent sur le bitume. Elle adresse un regard indifférent à Blomberg, qui ne semble pas faire attention à elle, bien qu'ils soient collègues depuis plus de 7 ans. Maria Ristonen poursuit son chemin jusqu'à la bouche de métro pour jeter un œil à la personne qui se tient dans le renfoncement d'une porte cochère à côté de l'entrée de la station. Le bruit de ses talons résonne entre les murs. La valise heurte le bord du trottoir et se renverse. Elle doit s'arrêter pour la remettre droite et en profite pour observer l'individu. C'est un homme assez bien habillé. Son visage a une expression difficile à définir. Il semble chercher quelque chose et pose un regard stressé sur elle. Le cœur de Maria Ristonen bat de plus en plus vite. Elle se retourne et entend la responsable des opérations, Jenny Göransson, parler dans son oreillette. « Blomberg le voit aussi. Il est en route. Attends Blomberg, Maria. Attends Blomberg. » Maria replace sa valise dans le bon sens, mais ne peut traîner davantage sans paraître suspecte. Elle s'efforce de ralentir le pas et avance vers l'homme au regard inquiet. Bientôt, elle devra le dépasser et continuer en lui tournant le dos. L'homme s'enfonce un peu plus vers la porte lorsqu'elle approche. Il a une main à l'intérieur de sa veste. Maria Ristonen sent l'adrénaline l'envahir lorsqu'il fait soudain quelques pas dans sa direction et sort l'objet qu'il tenait caché sous sa veste. Maria aperçoit par-dessus son épaule que Blomberg a mis l'homme en joue, mais baisse son bras lorsque Jenny crie dans son oreillette que c'est une fausse alerte. L'homme n'est pas armé. Il tient seulement une canette de bière dans sa main.
« Pute !» crache l'homme en faisant gicler de la bière sur elle.
« Mon Dieu !»
soupire Jenny dans son oreillette.
« Continue juste jusqu'au métro, Maria. »
La nuit s'écoule sans événement particulier. Les dernières boîtes ferment, et seuls quelques maîtres chiens, ramasseurs de bouteilles, livreurs de journaux ou joggeurs viennent rompre le silence de la nuit. Jenny Göransson commence à se languir de la relève qui doit intervenir à 8 heures. Elle jette un œil vers l'église Hedwig et Leonora, puis vers les fenêtres opaques de Pénélope Fernandez. Elle suit Storgatan des yeux jusqu'au presbytère où le réalisateur Ingmar Bergman a grandi. En mâchant un chewing-gum à la nicotine, elle scrute la place, les bancs du parc, les arbres, les statues. Soudain, Jenny Göransson devine un mouvement derrière les grilles en acier du portail menant au marché couvert d'Östermalm. Malgré l'obscurité, elle perçoit des mouvements rapides dans le reflet des vitrines faiblement éclairées. Jenny Göransson appelle Karl Schwirt. Il est assis sur un banc entre les arbres où se trouvait autrefois l'entrée du théâtre populaire Folktheatern. Deux sacs poubelles remplis de bouteilles vides sont posés à ses pieds.
« Non, je vois que dalle »,
répond-il. « Ne bouge pas !» Peut-être devrait-elle donner l'ordre à Blomberg de quitter son poste près de l'église et de courir jusqu'à Humle Gordon pour vérifier si tout est en ordre. Jenny observe à nouveau le portail. Il lui semble que quelqu'un est agenouillé dans l'obscurité près de la grille noire. Un taxi semble s'être trompé de chemin et fait demi-tour sur Nybrogatan. Jenny place rapidement ses jumelles sur ses yeux et attend que les feux de la voiture balayent la façade en briques rouges du marché. La lumière passe sur le portail, mais elle ne voit rien. La voiture s'arrête et enclenche la marche arrière. « Quel imbécile !» marmonne-t-elle lorsqu'une roue monte sur le trottoir. Mais soudain, les feux de la voiture éclairent une vitrine dans laquelle le portail se reflète directement. Il y a bien quelqu'un derrière la grande grille. Il ne lui faut qu'une seconde pour assimiler ce qu'elle a vu. Un homme règle la hausse d'une arme. Elle repose ses jumelles et contacte le central par radio. Elle crie presque dans le micro.
« Alerte rouge, je vois une arme. C'est une arme militaire avec lunettes télescopiques. Un homme près du portail du marché ouvert. Je répète, un tireur embusqué est posté à l'angle du pâté de maison entre Nybrogatan et Humlegårdsgatan. »
L'homme se tient derrière la grille. Il observe la place déserte depuis un moment, en attendant que les ramasseurs de bouteilles assis sur un banc partent. Constatant que l'homme comptait visiblement y passer la nuit, il a décidé de l'ignorer. À la faveur de la nuit, il déplie la crosse équipée d'un amortisseur de recul de son Modular Sniper Rifle, un fusil de précision semi-automatique dont la portée de tir peut atteindre 2 km. Sans se presser, il monte un cache-flamme en titane sur la bouche du canon, insère le chargeur et abaisse le bipied qui supporte l'arme. Juste avant la fermeture du marché, il s'était caché dans une des remises et avait attendu le passage du personnel de ménage et de la société de surveillance. Une fois l'éclairage éteint et les couloirs silencieux, il était sorti de sa cachette. Il avait déconnecté l'alarme des deux grandes portes d'entrée depuis l'intérieur avant de se rendre sous le porche extérieur qui donne sur la rue. Derrière la grille, l'entrée couverte constitue une petite pièce, un excellent poste de tir. Il est protégé de tous les côtés, mais a une vue dégagée en face de lui. S'il demeure immobile, il est invisible. Et si quelqu'un approche, il n'a qu'à s'enfoncer dans l'obscurité. Il pointe son fusil sur l'appartement de Pénélope Fernandez et scrute les pièces à travers sa lunette à visée électro-optique. Il est patient. Il attend depuis longtemps. Le matin s'approche et il devra bientôt quitter son poste pour attendre la nuit suivante. Il sait que, à un moment ou à un autre, elle regardera la place par la fenêtre en pensant être à l'abri derrière le verre laminé. Il ajuste la visée et, lorsque les feux d'une voiture balaient la façade du marché, il s'éloigne un instant avant de poursuivre l'étude de l'appartement du 1 Storgatan. Il aperçoit presque aussitôt un rayonnement thermique derrière une des fenêtres. Le halo, obstrué par la vitre blindée, est faible et granuleux. Il ne s'attendait pas à ce que la qualité soit si mauvaise. Il tente de ne pas perdre les contours flous du rayonnement thermique et d'en trouver le centre. Une lueur rose pâle bouge sur le fond violet, s'éclaircit un instant, puis s'intensifie de nouveau. Soudain, il distingue quelque chose sur la place. Deux policiers en civil se dirigent vers lui en courant, leurs armes plaquées le long du corps.